Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 11e épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir Alex Barré-Boulay. Pour ceux qui sont fans de l'Armada Blainville-Boisbriand, vous l'avez sûrement connu dans les dernières saisons. Et puis, en fait, je voulais vous le présenter parce que c'est de un parcours qui est extrêmement inspirant, donc qui remplit parfaitement la thématique du Made in Québec podcast, mais également, c'est un parcours d'ici qui a réussi à vraiment graver les échelons jusqu'à la Ligue nationale de hockey. Donc, comme vous le savez, on est dans une semaine spéciale Armada, deux joueurs de hockey consécutifs. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous le présenter, Alex Barré-Boulay. On a reçu Émile Samson lors du 10e épisode. On a parlé justement de comment lui a vécu l'arrêt du hockey et par le fait même l'arrêt de sa carrière au niveau junior. Ça n'est carrément la fin pour lui, la pandémie malheureusement. Alors, on avait parlé un peu de ça avec lui et puis je voulais aborder le sujet avec Alex pour voir comment lui a vécu l'arrêt de tout ça au niveau du sport professionnel à travers la Ligue américaine de hockey parce que c'est là qu'il évolue présentement avec le Crunch de Syracuse qui est une équipe affiliée en fait au Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale de hockey. Donc oui, Alex appartient maintenant au Lightning, il a signé un contrat à sa dernière saison avec l'Armada en 2017-2018. Et puis, par la suite, il a gravi les échelons jusqu'à la Ligue américaine l'année dernière, qui a été recrue par excellence de la saison en plus dans la Ligue. C'est vraiment un gars qui a réussi partout ce qui a passé. On parle de son parcours depuis le midget espoir, aller jusqu'à aujourd'hui. Chaque saison a toujours surpassé les attentes. Et puis, c'est vraiment un petit gars qui en a énormément à vous inspirer. Et puis, on a parlé, pour ceux qui sont fans de hockey, inquiétez-vous pas, on a parlé en masse de hockey, de ses inspirations, des joueurs qu'il a côtoyés avec le Lightning, de ses premiers camps d'entraînement avec les Kings, les Golden Knights de Vegas également, qui a appartenu auparavant. Ceux qui ne le savaient pas, il y a eu un essai professionnel avec eux. Et puis, également, on a parlé aussi de son passage avec l'Armada, bien sûr. Je ne pouvais pas en parler, c'était trop naturel. Alors, on a parlé de les coéquipiers qu'il a gardé contact avec par la suite, lors de la fin de son parcours junior. Et puis, on a également parlé de ses meilleurs moments qu'il a vécu, naturellement, la finale de 2017-2018, qui a été un moment incroyable pour les partisans de l'Armada. On a parlé également de justement comment il voit maintenant son parcours dans la Ligue américaine. C'est spécial, c'est différent. C'est pas glamour comme la Ligue nationale. C'est pas les gros vols en avion, on a dit. C'est un autre monde complètement. Et puis Alex nous en parle un peu mieux davantage là, si vous voulez connaître c'est quoi la vie d'un joueur de hockey professionnel dans la Ligue américaine de hockey. On a également abordé le sujet de la Ligue nationale, bien sûr. C'est comment il a vécu son camp avec le Lightning. C'est qui les joueurs qu'il a côtoyés, des bons leaders qu'il y a eu également, des gens qui sont des inspirations pour lui à travers la Ligue. On a également parlé aussi de son futur, comment Alex voit les choses. Et si vous voulez en apprendre davantage sur la personne, on va en apprendre également des petits bouts sur sa vie un peu plus personnelle. Donc, c'était vraiment ça. Je voulais vous faire découvrir le personnage en tant que tel qui est Alex Barré-Boulay. Donc, à tous les partisans de l'Armada, ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir cet épisode avec Alex Barré-Boulay. Et puis, pour les autres fans du Made in Québec podcast, je vous souhaite une excellente écoute pour ce 11e épisode du Made in Québec podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 11e épisode du Made in Québec podcast. Et aujourd'hui, c'est une semaine spéciale Armada. J'ai reçu Émile Samson dans l'épisode numéro 10 avec nous. Ça a été un excellent épisode et puis je voulais absolument vous faire découvrir davantage un de vos favoris, un des chouchous de la foule avec l'Armada de Blainville-Boisbriand dans les dernières saisons en fait. Et puis j'ai invité Alex Barré-Boulay qui est vraiment qui a été un joueur incroyable de son passage junior avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et puis, aujourd'hui, maintenant, fait partie de l'organisation du Crunch de Syracuse, qui est la filiale, en fait, du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, je voulais vraiment vous le faire découvrir parce que c'est un jeune qui a vraiment un parcours très différent, comme vous le savez, avec le Made in Québec podcast. J'essaie de vous faire découvrir des parcours qui sortent un peu des sentiers battus. Alex, lui, a eu vraiment la vie peut-être plus difficile au départ parce qu'il n'a pas été repêché dans la Ligue nationale de hockey, mais il a réussi à faire son bout de chemin, à atteindre son but, son rêve, qui est presque atteint maintenant avec la Ligue nationale de hockey, qui est tout prêt pour lui. Alors, je vais vous le présenter avec un petit topo, puis par la suite, je vais laisser Alex pouvoir vous en parler davantage. Alors, Alex a présentement 23 ans, 5 pieds 10, 170 livres, qui est vraiment plus petit que la norme pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey, mais on sait que c'est une ligue qui est beaucoup plus rapide et talentueuse maintenant, donc c'est à l'avantage des joueurs comme lui. En fait, il a fait son parcours sur la rive sud de Québec, dans le coin de Lévis, au niveau Midget Espoir avec l'Express de la rive sud, qui a quand même eu des excellentes statistiques par la suite, qui a gradué Midget 3A. Dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Voltigeurs de Drummondville au tout début, ceux qui l'ont connu, il y a eu des excellents moments aussi avec eux, tout juste avant d'être transigé, excusez-moi, avec l'Armada de Blainville-Boisbriand où ce qu'il a connu ses meilleurs moments dans la Ligue junior majeure du Québec. Et puis là, par la suite, son parcours junior s'est terminé. Il a réussi à épater la galerie à sa dernière saison avec une grosse saison de 116 points en seulement 65 rencontres, ce qui est assez incroyable. Il a terminé premier rang de la Ligue junior majeure et puis ça lui a valu un contrat dans la Ligue nationale de hockey avec le Lightning de Tampa Bay. Alors, il a gradué avec le Crunch de Syracuse la saison suivante, qui a eu des excellentes statistiques jusqu'à être nommé d'ailleurs recrue de l'année. Et puis, présentement, bien, il poursuit son parcours dans la Ligue américaine avec une autre superbe année qui s'est malheureusement terminée beaucoup trop tôt à cause de toute la crise que l'on connaît. Alors, voici le topo pour Alex Barré-Boulay. Et puis, merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Alors, Alex, premièrement, comment ça va de ton côté? Écoute, ça a dû être vraiment spécial, là, j'imagine, de tout comment ça s'est terminé la saison. J'imagine que tu étais sur une très bonne lancée en plus. Comment tu l'as vécu de ton côté, la crise que l'on vit?
Ça, c'était spécial. On s'attendait pas à ça parce que on se battait pour une place dans la série. Donc, on y allait game par game. Puis, on venait justement de jouer une grosse game à Utica la veille contre un rival de division. Fait que on était tous sous le choc le jeudi matin quand on a appris que nos games de la fin de semaine étaient cancellés. Au début, c'était supposé juste être la fin de semaine. Fait qu'ils avaient dit, restez en ville, puis on va voir qu'est-ce qui se passe après ça. Mais ça n'a pas été trop long qu'on a eu le feu vert pour retourner chez nous parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait recommencer. Puis finalement, la Ligue américaine, ça a tout simplement été cancellée. Donc, tout le monde est retourné chez eux dans leur famille, je pense.
Oui, effectivement, ça doit être spécial parce qu'il n'y a personne sur Terre, en fait, qui pouvait prédire qu'est-ce qui est arrivé, à part peut-être quelques scientifiques qui ne se sont pas fait prendre au sérieux. Mais du côté professionnel, quand tu es un joueur de hockey, surtout comme toi, qui veut faire sa place, que les séries approchant en plus, tu sais, tu avais peut-être aussi espoir de, on ne sait pas, avoir un call-up aussi dans la Ligue nationale. On n'a aucune idée c'était quoi les pourparlers que tu avais de ce côté-là. Ça doit être frustrant de savoir que ta saison prend fin comme ça, puis tu sais, t'as rien que tu peux faire non plus. Là. Est-ce que tu as eu des pourparlers avec l'organisation qui t'ont expliqué un peu c'est quoi leur plan de match par rapport à toi aussi ou qu'est-ce qui est arrivé?
Ils nous ont appelés, tu sais, pour nous conter qu'est-ce qui se passait, mais je pense pas que c'était. Il n'y avait pas grand-chose d'individuel. Là. C'était plus un message général, tu sais. Garde, reste en forme, on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Peut-être qu'il va y avoir des blackouts durant les séries ou les fins de saison. Fait que là, nous dit tout de rester en forme, mais on sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer là, pour les joueurs de la Ligue américaine. Les joueurs de la Ligue nationale, c'est assez clair que ça va recommencer, je pense, mais les gars de la Ligue américaine, on n'a aucune idée.
Ben c'est ça, mais j'imagine que tu dois te sentir concerné aussi avec l'annonce qu'on a eue en fin de semaine là, que les joueurs de la Ligue nationale, en fait, ont approuvé en fait le plan de séries éliminatoires avec 24 équipes. C'est un format qui s'est jamais arrivé dans le passé, en fait, là, donc c'est tout nouveau pour tout le monde. Et puis toi, qu'est-ce que tu penses de ce format-là de 24 équipes en ce moment, séries éliminatoires qui avantage le Canadien de Montréal aussi, là, mais c'est un peu spécial pour le Lightning.
C'est sûr que ça avantage les équipes. Pas ça avantage, mais c'est le fun pour les équipes qui ont fini dans le dernier rang. Mais c'est un petit désavantage pour eux qui ont fini dans la première place. Mais en même temps, avec la crise qu'on a, c'est assez exceptionnel. Là. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix de faire ça. Sinon, je vois pas comment il aurait pu faire pour faire fonctionner la Ligue ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est du monde assez intelligent qui sont placés là-dedans pour prendre des décisions. Je pense qu'ils ont pris les meilleures décisions.
Ben oui, c'est sûr. Puis en même temps, ben j'imagine que toi, ça doit te faire du bien, même si tu sais que la Ligue américaine, il n'y aura pas de séries éliminatoires. Si on le sait, c'est déjà terminé. Mais au niveau, comme tu dis, il y a des Black Aces, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des joueurs qui sont rappelés en séries éliminatoires un certain nombre limité aussi de la Ligue américaine pour, advenant le cas de blessures dans la Ligue nationale que vous pouvez remplacer en séries éliminatoires. Est-ce que toi, ça te fait quelque chose? Sûrement, j'imagine que peut-être tu vas avoir une chance d'avoir cette chance-là aussi en séries éliminatoires. Ça serait spécial comme ton baptême de feu.
Oui, c'est sûr que ce serait assez spécial. Je me fais pas d'attendre, honnêtement. Là, si tout le monde doit être en santé rendu après deux mois de confinement, quasiment. Je pense que tout le monde va être en santé. Donc, c'est sûr que si je vais, si je monte à Tampa avec quelques gars de la Ligue américaine, je pense pas qu'on va avoir d'action ben, mais c'est sûr, être avec les gars, si jamais on est rappelé, ça va être super le fun. Ça va être une belle expérience, surtout si le Lightning il se rend loin.
Ben oui, exactement. Surtout qu'on sait que la Lightning a l'équipe pour se rendre. En tout cas, espérant que ça soit différent de l'année passée, là, mais au moins l'équipe pour faire un bon bout de chemin. Fait que c'est sûr que j'imagine que tu dois t'inspirer des gars comme Frédéric Gaudreau aussi avec Nashville personne ne le voyait là. Puis il a joué un héros obscur en séries éliminatoires il y a quelques saisons. Donc, ça peut être une inspiration aussi de ton côté, j'imagine.
Ah, c'est sûr. Écoute, en plus, j'ai côtoyé Fred un peu quand j'étais avec les Vultures à Drummondville. C'est un gars qui s'entraînait à Drummond puis qui a fini sa carrière junior à Drummond. Donc, il venait au camp d'entraînement, pratiquait avec nous, ben, coacher des matchs intra-équipe. Donc, écoute, c'est un gars incroyable. Là. Il est vraiment, tu sais, il est calme, il est terre à terre, puis c'est un travaillant. Donc, c'est facile de s'inspirer là-dessus.
Ben oui, exact. Puis c'est un bon moule. Vous êtes pas mal dans le même moule de joueurs aussi. C'est un bon modèle pour toi, en fait, là, j'imagine. Il y a aussi un comparatif que j'entends souvent parce que j'ai rencontré l'an dernier, j'avais été à Tampa pour un voyage personnel, puis j'avais rencontré la famille de Yanni Gourde, puis ils vous connaissaient un peu, là, puis c'est ça qui me disait qu'il y a beaucoup de comparatifs entre vous deux, puis vous êtes dans la même organisation en plus. Est-ce qu'il y a une compétition? Vous voyez ça vraiment comme un fit parfait que vous pourriez jouer ensemble puis faire des flamèches à Tampa, là?
Ah, je pense pas que c'est une compétition. Écoute, le gars, il fait 5 millions en ce moment, puis moi, je suis encore dans la Ligue américaine. Donc, je pense pas qu'il y ait de comparaison à faire en ce moment trop. C'est sûr que c'est le fun de voir que, on vient de la même place environ, on a le même style de jeu un peu, on a le même shape, fait que, on a le même parcours un peu. Fait que, c'est sûr que c'est le fun de voir les comparaisons de même, mais je pense pas qu'il y ait de compétition en ce moment. Là. Je te dirais plus que, tu sais, quand je suis arrivé au camp d'entraînement, il était super, super gentil. Quelquefois, il m'a fait des lifts, mais quand j'étais en route de la Ligue américaine, il n'y a plus le temps de me souhaiter bonne chance et tout. Puis on a le même agent en plus. Fait que c'est sûr qu'il était super gentil avec moi. Je pense pas que c'est une compétition en ce moment.
Ben non, c'est sûr. Puis en même temps, c'est tout le monde, tous les Québécois rêvent, j'imagine, d'avoir un duo Alex Barry-Boulet puis Yanni Gourde dans la Ligue nationale. C'est sûr que ça risque d'être assez créatif et enflammé. Ouais, ça serait vraiment le fun. Y a-tu quelqu'un en ce moment qui a un bon. Je veux dire, quelqu'un que ça doit être, j'imagine, un Nikita Kucherov, là, mais une inspiration, quelqu'un qui disait, ce gars-là avec la Lightning, là, je triperais à jouer avec, ou est-ce quelqu'un qui t'épate vraiment au niveau style de jeu? Y a-tu vraiment un joueur en particulier avec la Lightning que tu as hâte de côtoyer?
Ben, c'est sûr qu'écoute, avec la Lightning, je pourrais te nommer pas mal toute l'équipe, fait que je te sortirai pas le nom, mais tu sais, des gars comme Kucherov, Stamkos, quand tu les vois au camp d'entraînement, c'est assez impressionnant, tout ce qu'il peut faire avec une rondelle. Sinon même Carter Verhaeghe qui est là en ce moment, j'ai joué avec l'année passée à Syracuse, on avait une très bonne chimie, donc
très talentueux.
C'est sûr que je sais que si j'allais à Tampa puis on était sur le même trio, on serait confiant, je pense.
Ouais, j'en doute même pas une seconde. Écoute, tu me fais penser à ça, je me rappelle de tes débuts aussi dans la Ligue nationale de hockey, c'était pas avec le Lightning de Tampa Bay, je pense que ton premier try-out que tu avais eu, c'était avec Vegas dans les tout débuts.
Los Angeles l'année d'avant.
Los Angeles, c'est vrai, excuse-moi. Oui, ouais. Explique-nous un peu, c'est quoi qui est arrivé exactement? Je sais que tu as eu une histoire aussi de commotion cérébrale qui est arrivée. Là. Explique-nous ce qui est arrivé dans tes deux camps, en fait, qui avaient quand même bien été à Vegas et avec Los Angeles.
Los Angeles, c'était plus première expérience. J'arrivais là-bas comme joueur invité de dernière minute. J'avais été invité au mois d'août. Fait que c'était bien deux semaines avant que je parte à Drummondville. J'ai su que je m'en allais à Los Angeles un mois plus tard. Fait que j'allais vraiment là pour l'expérience. Écoute, j'ai apprécié. C'était vraiment le fun. J'ai pas eu la chance de côtoyer beaucoup de joueurs de la Ligue nationale cette fois-là parce que c'était la Coupe du monde. Ah. Donc, tu sais, les Jude Audi, tous ces gars-là, Andy Kopitar, étaient tous partis pour leur Coupe du monde. Donc, c'est vraiment plus à Vegas l'année d'après que j'ai rencontré plus les joueurs de la Ligue nationale. Tu sais, c'était le premier camp aussi. Donc, je suis arrivé là-bas plus confiant. Je sortais, j'avais eu des bonnes séries à Blainville l'année d'avant. Donc, je suis arrivé à Vegas, c'est vraiment à confiance. Je pense qu'il aimait mon style de jeu. Quand j'avais des meetings avec les coachs, ils disaient que ça allait bien et tout. Puis là, finalement, on a eu des games de recrues qu'on est allé à LA jouer contre leurs recrues. Puis première game, en deuxième période, j'ai fait une commotion. J'ai fini le match sans être trop présent, mais j'ai fini la game. Puis après la game, ils m'ont dit que je jouais pas le lendemain à cause de ma commotion. Fait que là, je savais que c'était pas mal fini pour le camp d'entraînement. Donc, ils m'ont dit, écoute, tu peux plus jouer. Fait qu'on va te renvoyer tout de suite à Blainville. Je suis retourné à Blainville. J'étais content de retourner. Je savais qu'on allait avoir une grosse équipe. Je savais qu'on allait se battre pour la coupe. Fait que je suis retourné là vraiment positif. J'ai pris mon temps avec la commotion, mais je suis revenu. Puis mon début de saison, il avait été vraiment moyen. Là. C'était pas le début de saison que je voulais avoir. J'imagine que je pensais peut-être trop aux statistiques ou quelque chose du genre. Puis finalement, j'ai arrêté de penser. Puis moi, Alexandre Alain, notre chimie a vraiment juste cliqué. On est parti sur une lancée jusqu'à pas mal jusqu'à la fin de l'année. Puis là, finalement, environ vers Noël, j'ai su que j'allais signer avec le Lightning. Donc, c'était pas supposé de sortir. Là. J'ai su, ça a sorti en mars, mais je l'ai su à environ vers Noël.
Ouais, parce que puis, je me rappelle. Ouais, vas-y.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il fallait pas le dire au monde. Il y avait quelques gars dans l'équipe qui le savaient, là, mais fallait pas que ça sorte. Fait que là, j'ai attendu jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, ça a sorti. Puis après ça, j'étais à la Tampa. Puis c'est vraiment là que j'ai eu, par exemple, le plus, le starstroke, là. Quand tu vois que t'arrives avec Kucherov, puis Stamkos, puis Vasilevski, là, c'était impressionnant. Là. C'était vraiment, c'est des joueurs dominants au monde. Fait que c'est vraiment impressionnant.
Ouais, ça doit être spécial, surtout que tu sais, toi, tu joues à NHL, j'imagine, avec eux au PlayStation ou Xbox depuis que tu es jeune, tu sais, puis là, tu les côtoies sur une glace, c'est un peu un rêve de petit gars qui se réalise, puis tu sais, j'imagine, ça doit être impressionnant aussi, tu sais, tu l'as pas vécu avec les Kings, comme tu dis, parce que les joueurs étaient à la Coupe du Monde, mais ça doit être spécial de savoir que tu sais, tu arrives sur la même glace qu'eux, tu es au même niveau qu'eux, puis c'est des joueurs qui étaient probablement un de tes idoles quelque temps avant. C'est quoi le premier feeling que tu as ressenti quand tu les as vus?
La nervosité. honnêtement, au début, les premiers matchs, tu respectes tellement ces gars-là que tu veux pas en frapper un de dos, tu veux pas mal paraître parce que tu vas trop vite dessus, puis Kucherov, il te fait passe entre les patins. Donc, au début, la première game entre équipe, c'est tout le temps impressionnant, puis tu donnes trop de respect. T'sais. Je me rappelle, j'avais Victor Edmond dans mon équipe la première game, puis c'était pas trop long que je n'avais pas mon hockey à terre, j'allais me le faire dire. Donc, c'est juste vraiment impressionnant. Puis écoute, plus que ça va, plus qu'ils te font sentir à l'aise. Ça a été la même affaire quand je suis arrivé à Syracuse. J'avais Gabriel Dumont, que moi, quand j'avais peut-être bien 14-15 ans, lui, il commençait avec les Canadiens. Puis que là, c'était mon capitaine. Puis c'est devenu quasiment mon meilleur ami à Syracuse. Donc, ils te font vraiment sentir à l'aise. Puis c'est pas long que tu te sens en famille.
Ah ouais, puis Gabriel Dumont peut t'aider aussi parce qu'en plus, il a joué aussi avec les Voltigeurs de Drummondville comme toi aussi. Fait que vous aviez un parcours, ouais. Même gabarit également. Fait que tu sais, il peut vraiment te soutenir et t'aider dans ton parcours professionnel aussi. C'est un bon leader aussi de ce que j'ai compris.
Ah oui, c'est sûr. Écoute, quand je suis arrivé à Syracuse l'année passée, ma première année, on avait vraiment une grosse équipe aussi. Là. On avait des Andy Andreoff qui ont joué quand même 3 ans pour les Kings. Après ça, Hubert Labrie, qui est un solide défenseur, Gabriel Dumont, Michael Bournival. On avait beaucoup de gros noms, Corey Conacher. Puis, ça paraissait pas pendant tout. Tu arrivais dans la chambre, puis ces gars-là disaient les mêmes niaiseries qu'un gars de 20 ans peut dire. c'était des gars qui étaient de bonne humeur d'être à l'aréna, qui étaient super contents de nous voir. Puis, ils étaient contents de voir que les jeunes prenaient leur place aussi. T'sais, quand on allait sur la route, j'allais manger avec des gars qui ont 27-28 ans, comparé à quand j'étais junior, je me mettais avec des gars qui avaient 17-18 ans. T'sais. Fait que c'était... Au début, c'est une adaptation, mais c'est vraiment pas long qu'ils te font sentir que t'es rendu dans l'hockey professionnel et que t'es dans la famille.
C'est vrai que ça doit être spécial, mais ça a sûrement aidé aussi, j'imagine, avec un entraîneur comme Benoît Groulx, d'avoir un côté francophone aussi. T'sais, toi, j'imagine que ton anglais était quand même bien, mais sûrement quand tu arrives dans un milieu 100% anglophone, ça doit être un peu spécial. Est-ce qu'il t'a aidé au niveau, est-ce qu'il faut être parlé en français ou c'était plus, regarde, tu vas rentrer dans le tas comme les autres?
J'ai pas eu de problème avec l'anglais parce que j'ai eu des coachs juniors qui mettaient l'accent beaucoup là-dessus. T'sais, j'avais eu Martin Raymond, qui est un gars extrêmement intelligent, qui voulait qu'on parle en anglais. J'ai eu Joël Bouchard, Dominique Chambre. T'sais, c'est tous des gars qui voulaient monter dans l'hockey professionnel ou qui ont déjà été dans l'hockey professionnel. Donc, ils nous parlent anglais déjà dans la chambre. Puis, quand je suis arrivé à Syracuse, c'est sûr que Benoît Groulx, s'il me parle tout seul à moi, il va me parler en français. Mais si jamais il va parler en français s'il y a des anglophones autour,
c'est normal.
Par respect pour eux, là, s'ils comprennent pas qu'est-ce que tu dis, c'est plate pour eux. Là. Fait que non, Benoît Groulx, c'est sûr qu'un contre un, il va parler en français, mais sinon il va tout le temps parler en anglais.
Mais ça doit aider aussi au niveau de la transition. Surtout que Benoît Groulx a un long passage dans la Ligue junior majeure du Québec de gagnant aussi. Puis j'imagine qu'il peut, il peut te comprendre c'est quoi la transition du junior à la Ligue américaine qui ne doit pas être évidente non plus. Là, tu tombes vraiment, c'est comme, je pourrais dire, de l'école secondaire au cégep carrément. Là, tu tombes dans le monde des adultes, tu es laissé un peu plus à toi-même. Tu es peut-être un peu moins cadré comme un enfant, si on veut. Là. Mais j'imagine que lui doit avoir aidé aussi à cette transition-là.
Ah, c'est sûr que oui, mais écoute, Ben, c'était tout ce qui passait à l'aréna, c'était lui qui gérait ça, mais il me disait que dans le professionnel, aussitôt que tu sors de l'aréna, tu es laissé à toi-même. Il faut que tu fasses ton épicerie, faut que tu payes ton logement, faut que tu payes ton électricité, il faut que tu t'occupes de toutes ces affaires-là. Donc, on avait des gens dans l'organisation du Crunch qui pouvaient nous aider au début de l'année pour nous diriger dans les appartements parce que, je sais pas, quand tu n'as jamais fait ça, c'est dur, c'est dire, OK, je vais trouver un appartement aujourd'hui. Fait que. Il y avait une personne dans Crunch qui nous guidait, qui nous disait OK, beaucoup de joueurs qui restent dans ce bloc-là, t'as le numéro du propriétaire. Mais à part ça, t'es vraiment laissé à toi-même dans le professionnel, mais ça a des avantages et des désavantages.
Exactement. Est-ce qu'il y a un joueur que je pourrais dire dans l'organisation du Lightning qui a vraiment été comme un. On a parlé de Gabriel Dumont, mais plus au niveau du Lightning de Tampa Bay, qui a été vraiment comme un. On pourrait dire un bon leader. On a parlé un peu de Victor Hedman aussi. Est-ce que c'en est un qui a été vraiment, tu sais, qui est venu te parler, qui t'a dit, OK, ouais, il a vraiment exercé un bon rôle de leader envers moi, puis tu t'es senti tout de suite à l'aise avec lui? Y en a-tu un en particulier?
Il n'y en a pas un en particulier. T'sais, je te dirais que c'est sûr qu'ils vont nous parler sur la glace un petit peu, mais ils ont tellement de choses à s'occuper. Les gros joueurs, comme Stamkos, Kucherov, Hedman, ils ont d'autres choses à penser que. Venir dire salut à la recrue, que c'est la première fois qu'il met le pied dans la chambre. Là, je te dirais que les joueurs québécois, c'est sûr que ça aide. Là, Louis Domingue était là quand j'étais là. Cédric Paquette, Yannick Gourde. Ils ont vraiment été gentils avec moi. Il y a toujours eu Tyler Johnson aussi qui lui parle plus. Il est moins gêné, je pense. Puis il va juste plus vers le monde. Donc c'était plus facile pour lui, j'imagine. Puis j'étais assis à côté dans la chambre, donc c'était facile pour lui de me parler.
Exactement. Puis ouais, c'est spécial. Ben, je me souviens quand j'étais photographe avec l'Armada durant ta dernière saison, ça m'a fait drôle parce que oui, on entendait toutes les rumeurs qu'il fallait pas qu'ils se sachent comme quoi que tu signerais avec le Lightning, là, mais c'est vrai que ça datait du bout de Noël à peu près. Puis plus que la saison avançait, les pressions montaient fort dans les médias de Montréal pour que le Canadien te signe. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de. Tu faisais des entrevues aussi, puis là, il y avait comme un malaise parce que là, on entendait les rumeurs, puis là, ouais, c'est pas vrai. Puis là, tu étais là, ben j'aimerais ça, c'est sûr. Le Canadien. Là, il y a comme un petit malaise qui se créait, mais ouais. Tu vois comment tu l'as vécu, sachant que tu étais quand même. Tu avais une promesse avec le Lightning, puis là, il fallait que tu fasses comme si de rien n'était. Ça devait être spécial.
Ouais, c'est sûr, c'était spécial. Là, mon agent m'a dit garde, réponds aux questions, puis fais juste de ton mieux pour pas que ça sorte. Mais tu sais, souvent, Nick Thibault, qui était dans le temps avec l'Armada, qui s'occupait des médias, c'est lui qui disait aux journalistes écoute, essaie de pas poser de questions. Sur ça, mais tu sais, c'est sûr que des fois, il y en avait qui s'essayaient pareil, mais j'ai toujours dit écoute, c'est mon agent qui s'occupe de ça en ce moment, puis on verra ce qui va arriver.
Oui, exactement. Oui, on connaît bien Nick là-dessus. Il faisait un bon contrôle là-dessus, puis il checkait bien son affaire. On le sait d'ailleurs. Maintenant, avec l'Océanique. Ouais. Oui, dans le fond, c'est ça. Puis, dans le fond, je me souviens d'avoir vu aussi beaucoup de deep stars. Il y avait Donald Odette, Trevor Timmons qui venaient régulièrement. Nous, on pensait que c'était pour toi parce que tous les spotlights étaient sur toi à ta dernière saison. Mais il y avait aussi beaucoup qui regardaient Alexandre Alain, aussi ton coéquipier, qui a signé avec finalement le Rocket de Laval dans l'organisation du Canadien. À ce moment-là, est-ce que c'était quand même quelque chose que tu avais espoir peut-être de pouvoir poursuivre avec Alex? Est-ce que il y avait quand même des chances que vous jouiez ensemble ou c'était quelque chose qui... C'est sûr que tu n'as pas de contrôle là-dessus, là, mais j'imagine que vous aviez tellement une belle chimie aussi, Junior. Là, ça a dû faire spécial de vous séparer par après.
Ouais, c'est sûr. Écoute, mais on ne s'attendait pas à signer à la même place, honnêtement. Probablement qu'on s'attendait à. On avait des attentes de signer les deux. Tu sais, je pense que c'est ça qu'on voulait les deux, mais tu sais, c'est assez rare qu'il y ait une équipe qui va signer deux joueurs de la même équipe en même temps. Donc, on savait que ça allait probablement pas être. Que ça allait être la dernière saison ensemble. Mais écoute, à chaque fois que tu sais, l'année passée, il venait à Syracuse, j'allais dîner avec. Chaque fois que je vais à Laval ou qu'il vient à Syracuse, on se voit après les matchs. Donc, on a gardé une bonne relation.
Ah, écoute, c'est super. Non, c'est vraiment. Ouais, on la voyait, votre chimie, puis même avec Joel Teasdale, puis tu sais, vous aviez vraiment une équipe spéciale. On va en parler justement de cette saison-là, la saison que moi j'ai vécue avec toi en 2017-2018 avec l'Armada. ça a été toute une saison. Je pense que ça a été vraiment la saison la plus marquante de ton passage junior. C'est sûr, tu as vécu la finale aussi l'année précédente, en fait, avec Pierre-Luc Dubois aussi, que ça a été une équipe boostée à bloc, qu'on pourrait dire. Mais comment tu l'as vécu, toi, la finale, la saison en général 2017-2018 qui a été incroyable?
Ah, écoute, on savait en partant la saison qu'on allait être probablement d'un top contender pour la Coupe. Je pense qu'avec le groupe de joueurs qu'on avait et les 20 ans qu'on avait, on savait qu'on allait pouvoir faire un bout. C'est sûr que on a eu un début de saison bon, mais pas plus que ça, je pense. On avait été correct. Moi, parce que ça n'allait pas comme je voulais. Je pense qu'Alexandre aussi. Puis finalement, à un moment donné, juste un déclic qui s'est fait. Puis on est parti, je pense, pour quelque chose comme 14-15 games avec un point de suite. Là, on est vraiment parti pour le reste de l'année. On jouait mal, puis on gagnait pareil. On trouvait tout le temps de façon de gagner. C'était vraiment un gros spécial. T'sais, on pouvait perdre, je repense à une game contre Victoriaville, me semble. On perdait comme 4-1, il restait 2 minutes, puis on a gagné 5-4 en prolongation. On
avait fait 2 buts en fin de match aussi.
On trouvait tout le temps de façon de gagner. Fait que c'était vraiment une année de folle. Puis, écoute, rendu en série, on était assez confiants. On arrive contre Val-d'Or, puis là, première game, on va en prolongation. Il y avait de quoi qui marchait pas. On était stressé peut-être un peu de la pression d'être premier. Finalement, on gagne en prolongation, Alex avait scoré. Puis finalement, on a gagné en 4. Puis après ça, on avait Moncton. Que là, on était vraiment parti. Moncton, je pense qu'on a gagné 3 games de suite, comme par 6-7 buts. On avait perdu game 4 à Moncton pour finalement gagner game 5 par 6-7 buts encore. Puis là, on était arrivé en demi-finale contre l'Île du Prince-Édouard, qu'on ne pensait pas qu'elle allait donner de la toffe de même. Écoute, on gagne les 2 premières games à maison. Arrive là-bas, on perd 2 games en prolongation. Ça a été l'histoire de la série. À toutes les fois qu'on allait à Charlottetown, on a perdu en prolongation.
Ah, Pierre-Olivier Joseph était n'était pas évident non plus.
Ah non, il faisait sa job comme faut. Écoute, il a vraiment été bon pour eux dans cette série-là, surtout qu'il avait juste 18 ans. Ouais. Il a été vraiment bon pour eux. Puis écoute, finalement, on s'est battu 6-1, je pense, game 7, de quoi de même. Finalement, on est arrivé en finale, écoute, là encore ce cœur quasiment. arrivé là-bas, puis écoute, ben, tu gagnes la game numéro 1, fait que là, on a le vent dans les voies, puis tout, finalement, on a perdu en 6, mais écoute, c'était tellement une belle saison avec les gars que c'était comme irréel que ça finisse sans gagner la coupe. Tout le monde était en terre dans la chambre après la game, là. C'était vraiment triste, mais je pense que on était triste, mais ça s'est vite viré, hein, regarde, on a eu vraiment une belle saison, puis qu'on voulait profiter des derniers moments de tout être ensemble.
Ouais, puis c'était frustrant aussi. On était, l'atmosphère, on en a parlé dans le dernier podcast avec Émile Sanson, là, mais l'atmosphère qu'il y avait dans le building, il y a pas loin de 4000 personnes entassées. C'est sûr que c'est pas pareil comme dans la Ligue nationale, mais sincèrement, ceux qui n'ont pas vécu l'ambiance d'un hockey junior en séries éliminatoires, surtout à Blainville-Boisbriand, quand il y a 4000 personnes toutes entassées, les gens sont debout sur la passerelle, ils payent pour être debout. C'est incroyable. Il y a vraiment une belle ambiance. Puis j'imagine, vous, sur la glace, ça doit être incroyable.
Ah ouais, c'est surtout durant l'hymne national, quand il faisait un peu comme à Halifax, là, quand c'est la foule qui commence à chanter l'hymne national, me dire que ça venait nous chercher. Je pense qu'on avait tous des frissons sur le banc, puis ça donnait juste tellement le goût de travailler fort et d'aller gagner que c'est vraiment incroyable. Puis c'est probablement la meilleure ambiance que j'ai vue dans un arena junior de ma vie.
C'est incroyable, oui. C'est sûr, j'étais sur la glace aussi à vous photographier pendant ce temps-là, puis les frissons me prenaient tout le temps. Je me disais, waouh, c'est. J'imaginais pas être dans vos shirts, puis surtout, tu sais, comme j'en ai parlé avec Émile, quand t'es gardien de but, puis ça doit être nerveux, surtout si c'était sa première saison à lui, là, tu sais, tu peux pas en laisser passer une. Tandis qu'un attaquant, ben, tu peux avoir une petite gaffe, ça paraît pas trop, là. Mais, tu sais, ça doit être vraiment spécial. Justement, tu sais, que ton parcours se termine de la sorte, tu sais, sans avoir soulevé la coupe non plus. Comme tu dis, ça a été un regret aussi. Est-ce que tu as vraiment, tu dis que tu as tourné la page, mais est-ce que tu as d'autres regrets par rapport à ton parcours junior ou c'est vraiment très satisfait en général de ton parcours?
Non, je pense que je suis satisfait en général. Écoute, j'aurais aimé ça gagner la coupe, c'est sûr, mais je peux pas me plaindre avec les saisons que j'ai eues à Blainville. T'sais, 2 fois perdre en finale de la coupe, c'est sûr, c'est plate, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit rendu en finale 2 fois 2 années de suite. Après ça, c'est sûr que mes années à Drummond, c'était mes débuts dans le junior. C'est là que j'ai appris. J'ai vraiment eu du fun là-bas. J'ai connu des gars avec qui j'ai joué et du monde que c'est sûr que je vais rester en contact pour le reste de ma vie probablement. Même chose à Blainville. Donc, j'ai pas de regrets au niveau de mes années junior, c'est sûr.
Ben écoute, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est important de le mentionner. Toi, tu n'as jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey. L'année, justement, de ton repêchage, est-ce que tu avais espoir? Est-ce que tu avais des équipes qui t'avaient parlé? Ou c'est vraiment, tu ne t'attendais pas à être repêché, puis finalement, tu t'es dit, gars, je vais travailler plus fort. Comment tu l'as vécu cette année-là?
Ma première année, écoute, je ne m'attendais pas en tout d'être repêché. J'avais parlé à zéro équipe. Zéro équipe qui m'avait parlé, donc je savais, mon agent me l'avait dit. Tu sais, j'étais classé, je pense, en Amérique du Nord. Puis mon agent m'a dit, garde, je pense pas que ça va être cette année. Fais ce que tu veux, tu peux y aller si tu veux, mais moi, mon père m'avait demandé, je voulais y aller, j'avais dit non, je veux pas y aller. Écoute, si j'y vais, puis je peux repêcher, moi, juste être pas content. Fait que, tant qu'à ça, on va rester ici, puis ça me dérangera pas. Fait que je m'étais entraîné fort pour mon année d'après. Je pensais peut-être qu'à 18, j'avais fait 89 points. Je pensais que j'allais avoir une assez bonne saison pour pas nécessairement être drafté, mais avoir une invitation plus de bonheur. Puis finalement, ça avait été début à août que j'avais eu mon invitation. Là, je m'attendais plus, je me faisais plus d'attente d'aller à un Canadien national. Finalement, cette année-là, au milieu de l'année, je me suis ramassé à Blainville. Fait que ça a été, je peux pas demander mieux. Puis là, c'est vraiment là que ça a plus parti ma carrière.
Ben effectivement. Puis, tu sais, c'est important que tu le dis. Je pense que c'est là que ton. Tu sais, c'est ceux qui ne connaissent pas un peu tes statistiques, là, c'est. Vous donner une petite idée de ce qu'Alex a fait au cours de son parcours junior, là, avec Drummondville, justement, en 2015-2016. En 2014-2015, dans sa première saison, c'est 51 points, quand même très bien en 65 matchs. 68 matchs, excusez, pour une saison recrue, ce qui est quand même excellent. Par la suite, en 2015-2016, 89 points en 65 matchs. Une belle éclosion, comme Alex disait. 2016-2017, il y a eu l'échange avec l'Armada, 48 points avec les Voltigeurs, 33 avec l'Armada. Et puis en 2017-2018, ça a été complètement l'explosion, 116 points en 65 matchs. Et surtout, il ne faut pas oublier, tes séries éliminatoires ont toujours été excellentes. Les 31 points quand même en tes premières séries avec l'Armada. Je pense que c'est là que tu as prouvé ton caractère, puis tu l'as forgé aussi en n'étant pas repêché, parce qu'il y a beaucoup qui se découragent que la saison suivante, c'était une saison vraiment pas bonne. Mais toi, dans ton cas, ça a toujours monté parce que tu n'as jamais abandonné, dans le fond.
Ouais, non, ben, je me faisais pas l'attendre d'être repêché ou rien, fait que je n'étais pas déçu quand ça n'arrivait pas. Fait que j'ai toujours appris à juste continuer à travailler fort, puis jouer pour le fun de jouer. T'sais, junior, c'est vraiment ça. T'es payé bien 60$ par semaine. Donc, ouais. Tu joues pour le plaisir, je pense. Fait que, toujours travailler fort et avoir du fun à l'aréna. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Toujours travailler fort pour avoir du fun à l'aréna, je pense que c'est ça le principal.
Oui, exactement. Excusez ceux qui sont sur vidéo, il y a des petits problèmes de lag là, en ce moment. Là. C'est, je pense que la connexion Zoom n'est pas effrayante. oui, dans le fond, oui, comme tu faisais très bien de le dire. C'est quoi pour toi qui a été, je pourrais dire, le défi le plus que tu as eu au niveau junior? Parce que souvent, on dit que c'est difficile les parcours en autobus, étudier dans le bus en même temps. Comment toi, tu l'as vécu vraiment, ce parcours junior-là? Est-ce que tu as eu des moments que tu étais plus découragé que d'autres, que tu pourrais peut-être aider les jeunes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans le junior à l'heure actuelle?
Ben, c'est sûr, écoute, c'est pas le fun d'aller au Cap-Breton pour faire 16 heures d'autobus, mais en même temps, il y en a combien de jeunes qui aimeraient ça à votre place, puis à notre place, de dire, je m'en vais à une game junior majeur, je vais pas à l'école cette semaine, je suis parti Saint-Martine, tu sais, tu visites tout le Québec en même temps aussi. T'sais. Fait que je pense qu'il faut juste que tu vois ça positif. C'est sûr que des fois, tu sais, même quand j'étais junior, des fois, j'étais comme, ah, on s'en va au Cap-Breton, ça me tente pas, tu sais. Mais rendu là-bas, t'as autant le goût de jouer ta game que si t'étais à la maison. Puis t'as du fun dans le bus, honnêtement. C'est un des bons souvenirs que je me rappelle du junior, c'est nos rides de bus. Surtout avec Blainville, on avait un bon setup en arrière avec Tabby Pocket Bisson, Tanny Poulin, puis quelques autres. On avait un Xbox avec une TV. Puis,
dans le bus.
Ouais, dans le bus. On avait un bon setup. Puis écoute, c'est vraiment des bons souvenirs. Même à Drummond, on joue aux cartes. Je pense qu'il faut juste être positif parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui aimeraient être à notre place, puis il y en a vraiment beaucoup qui essayent de jouer junior majeur, puis qui, malheureusement, ça n'arrive pas, donc je pense qu'il faut vraiment être reconnaissant là-dessus.
Ouais, c'est bien que tu le dises, parce que c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de gens qui parlent de justement comment c'est ces parcours d'autobus-là, mais ça doit être différent aussi, là, parce que vous faites beaucoup d'autobus dans la Ligue américaine, là, le monde pense que vous êtes dans la Ligue nationale, puis vous avez les avions analysés. C'est important de mentionner que c'est pas la grosse classe, la Ligue américaine. Parle-nous un peu de c'est quoi, comment que ça se vit dans la Ligue américaine.
Ben, on est probablement l'équipe la plus chanceuse dans la Ligue américaine pour le déplacement, parce qu'on a tellement d'équipes proches de nous. On a Rochester, qui est environ un heure et quart, Utica, 50 minutes, Binghamton, 1 heure, Laval, ça prend peut-être 23h30, 4h, Toronto, même affaire, Belleville, 2h45. Il y en a tellement des proches de nous qu'on ne fait pas tant de voyages que ça. Notre plus long, c'est aller à Charlotte, puis on y va en avion. Fait que pour ça, c'est vraiment pas si pire. Je pense qu'on est vraiment chanceux au niveau là-dessus.
Ben oui, c'est le fun. C'est sûr qu'il y a des villes pays que d'autres dans la Ligue américaine qui font beaucoup de voyagements aussi. Puis je pense aussi que vous faites exprès d'avoir souvent des deux matchs en même, des fois des trois en trois. Là. Je pense que la vendredi, samedi, c'est souvent des matchs qui sont priorisés back-à-back là, pour éviter de vous déplacer tout le temps en autobus, j'imagine.
Oui, ça arrive souvent. Surtout en début de saison, souvent notre cédule, c'est mercredi, vendredi, samedi. Okay. C'est souvent ça. Je ne sais pas pourquoi, mais comme si on va à Toronto, ça se peut qu'on joue deux games à Toronto de suite. Si on va à Laval, c'est plus qu'on joue deux games à Laval. Des fois, on fait Toronto, puis le lendemain, on fait Laval. On essaie de voyager le moins possible. Là. C'est sûr que quand on va à Charlotte, on n'a pas le choix de jouer deux games de suite, là, parce que sinon, ça coûterait trop cher, je pense, pour les avions. Là, parce qu'on voyage commercial, on voyage avec un avion normal. Là, on n'est pas privé rien. Fait que je pense que ça coûterait trop cher, sinon, tout le temps, à leur virer à Charlotte.
Ben oui, exactement. Puis, comment t'as trouvé ça, toi, ton premier match avec le Crunch quand t'es arrivé contre le Rocket, en fait, à Laval? Ça a dû être spécial parce que t'as dû avoir une couple de partisans quand même de l'Armada qui sont venus le voir jouer. T'as-tu eu des applaudissements quand t'as fait un but? C'était comment? C'était ton premier feeling?
Ben, c'est sûr, c'était spécial. Écoute, j'étais pas plus nerveux que d'habitude, mais j'étais peut-être plus excité un peu. Là, t'sais, ma famille était là, puis... C'était différent que de jouer à Binghamton, mettons. J'étais super content d'être là. Écoute, de voir tous les fans de l'Armada des fois dans les estrades. Il y en a qui avaient encore mes chandails dans les estrades ou bien des pancartes. C'est sûr que c'était le fun, mais je pense qu'un coup que la game commence, tu oublies pas mal tout ça puis tu focuses sur la game. Là.
Exact. C'est sûr que ça doit être spécial aussi. T'sais, on dit que les joueurs en font pas vraiment de cas ou ça les dérange pas, mais tu les vois quand même, ces choses-là. Tu les vois le monde avec tes pancartes, tes chandails, puis ça t'affecte positivement en fait dans ton match par la suite. Là. C'est ça qui est différent. Là. Dans le fond, c'est ça aussi. Je me demandais par rapport dans la Ligue nationale de hockey, y a-t-il un building que tu as plus hâte de jouer que d'autres? T'sais, y a-t-il un aréna, un amphithéâtre que tu dis, c'est comme un rêve de petit gars de pouvoir mettre les pieds dans ce building-là puis voir comment ça se passe là-bas? Là.
Écoute, c'est sûr que là, je l'ai vécu à. Ma première expérience, c'était en Arizona parce que quand j'étais là, on avait été joué en Arizona. Donc, c'était vraiment. C'est une belle aréna, c'est super beau, mais il n'y a pas beaucoup de fans. Après ça, ça a été à LA. Pas à LA, excusez, à Tampa. Écoute, l'aréna est incroyable. C'était une game hors concours, puis il y avait quand même 15 000 personnes.
Ouais, c'est vraiment bon fan à Tampa.
Ouais, c'est vraiment une ville de hockey, je pense. Puis il y a vraiment beaucoup de fans. C'est vraiment l'aréna le fun, mais c'est sûr que si tu me donnes le choix, c'est sûr que j'aimerais ça jouer au Centre Bell. Ça doit être le fun de vivre ça, le plus gros aréna. Ça doit vraiment être impressionnant.
Ah, effectivement, c'est sûr, mais c'est important aussi de le dire. Les gens ont souvent tendance à dire où est-ce qu'il fait chaud, c'est pas des villes de hockey. Puis, moi aussi, je suis de la région de Montréal, puis j'ai connu l'ambiance du Centre Bell. Puis, on dirait qu'on pense juste au Canada quand on pense à ville de hockey. Ouais. Quand j'ai fait moi, le parcours des arénas en Californie, Anaheim, Los Angeles, puis j'ai vu aussi Tampa Bay, puis je me suis dit, OK, c'est des bonnes villes. Sincèrement, Los Angeles, ça a été mon coup de cœur au niveau partisan. Le monde sont vraiment derrière l'équipe. Il y avait une saison de merde, excusez-moi l'expression, là, ça allait vraiment pas bien. Il y avait vraiment beaucoup de monde, puis ils encourageaient le club, puis les tailgates d'avant-match, comme en séries éliminatoires. C'est sûr que ça l'aide quand il fait 40 degrés en plein hiver, là, mais c'est sûr que c'est plus le fun. Mais même à Tampa Bay aussi, c'est sûr que vous aviez un très gros club. C'est l'an dernier, j'y étais, puis des gros clubs, mais ça reste que c'était plein des estrades. Le monde connaît le club, ils ont tout un chandail sur le dos. Ça doit être assez spécial et électrisant sans faire un jeu de mots.
C'est spécial. C'est juste une game hors concours, il y a quand même 15 000 personnes. C'est assez impressionnant.
Oh, oui, vraiment, c'est ça. Fait que j'imagine pas dans la ligue un coup que ça va être un match, un vrai match. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à dire à un jeune qui peut-être plus petit, parce qu'il faut dire aussi dans ton parcours avant, quand tu étais midget, tu n'étais pas celui qui était le plus gros naturellement. Fallait que tu te démarques autrement. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à un jeune qui est dans le moule d'un Alex Barré-Boulet et qui te voit, qui aimerait faire comme toi, en fait?
Ben, faut juste travailler plus fort que les autres, je pense. Quand tu aimes vraiment ce que tu fais, quand tu as la passion pour le hockey, je pense que tu vas te dépasser à chaque fois que c'est à la glace. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Faut pas que tu te laisses affecter par les commentaires négatifs de gens qui disent que tu es trop petit. Faut juste que tu prennes la motivation.
C'est très bon conseil, effectivement. Question en rafale pour toi, Alex. Le joueur qui t'intimide le plus, pas intimide, mais qui t'impressionne le plus, que tu as hâte ou peur d'affronter dans la Ligue nationale de hockey?
Ben, c'est sûr, Sidney Crosby, ça doit être assez impressionnant de jouer contre lui.
Et j'imagine, ouais, tout Crosby, McDavid, ça doit être...
Ouais, toute cette gang-là, ça doit être impressionnant.
Ça passe vite à côté de toi, puis tu ne veux pas te faire shifter. Ouais. défenseur que tu dirais le plus redoutable, tu peux dire Victor Hedman, là, mais s'il y en avait un autre, le plus redoutable que tu dis, lui, je risque d'avoir de la misère à le passer à la défense. Il y en a-tu un qui m'y entend?
Ben, c'est sûr que des gars comme Shea Weber ou Chara, ça doit être des gars qui sont assez durs à jouer contre puis qui doivent être durs à passer à côté. Là.
Effectivement. Question en rafale, tu me vois venir pour la dernière. Et le gardien de but qui, selon toi, va être le plus difficile à déjouer dans la Ligue nationale de hockey?
Pour avoir fait des tirs de barrage contre Vasilevski, il m'a dit qu'il est assez dur à scorer. Mais sinon, Carey Price est assez dur à scorer.
Oui, il revient souvent. Tu sais, les gens de Montréal, ils ont souvent tendance à chialer contre Carey Price parce qu'on s'entend que il fait un gros salaire. Puis, ça reste Montréal, là, tout le monde chiale tout le temps. Ouais. Mais il y a de la pression, un gros marché aussi. Mais ça reste que c'est un gardien de but. C'est drôle, tous les joueurs de la Ligue nationale le répètent ou les joueurs de la Ligue américaine. C'est le goaler qui intimide le plus l'adversaire. Puis, comme Vasilevski aussi également. Là, donc, c'est à prendre en compte aussi. L'équipe que tu vas considérer la plus difficile à affronter, je peux dire, avec la Lightning?
C'est une bonne question. C'est sûr que ça varie d'année en année. C'est sûr que le Lightning partie d'eux autres. Mais là, c'est sûr que Washington, ils ont comme un bon mix de vitesse, de physique, de défense. Sinon, je pense que dans le futur, Colorado devrait être assez explosif.
Là. Effectivement, oui, c'est très bonne réponse avec les Rantanen, les Landeskog, tout ça, les McKinnon. Ça reste qu'ils ont un bon noyau, eux autres aussi, puis ça va être dans les années à venir avec la Lightning, des très grosses équipes. Je te dirais aussi au niveau, on va revenir vite sur ton parcours junior, il me reste 3-4 questions à te poser. Au niveau de ton parcours junior, quand on pense avec l'Armada aussi, y a-tu des joueurs que tu as gardé une belle chimie, une belle connexion avec eux, en fait, que tu continues encore de discuter régulièrement? On a parlé d'Alexandre Alain, mais y a-tu d'autres joueurs aussi que tu as gardé un beau lien avec eux?
C'est sûr que les deux dernières étés, j'étais à Montréal. Donc, chaque mercredi soir, je jouais à Blainville 3 contre 3 avec Toby Pocket-Bisson, Morgan Adams-Moisan, Joel Teasdale. Même TJ Melançon, il est venu à Syracuse cette année pour une game. Ça a été une game, mais ça a été le fun d'avoir TJ. Sinon, Sam Montembourg. Il y a une coupe encore qu'on se parle encore, puis que quand on se voit, c'est super le fun.
Effectivement. Puis Pierre-Luc Dubois, j'imagine que tu avais développé une belle chimie avec lui dans ta première saison avec l'Armada, surtout en séries éliminatoires. C'est quelqu'un aussi, ça doit faire bizarre aussi. Tu vas la recroiser même en première ronde. Je pense qu'il y a des chances que le Lightning soit dans le même bunch que le. Que Columbus aussi, là, il y a une chance qu'ils s'affrontent rapidement en deuxième ronde. Mais toi, est-ce que tu as gardé contact avec lui aussi ou tu peux lui
donner un conseil? Oui, parce qu'on s'entraînait en même place les deux dernières étés, donc on se voyait pas mal à tous les jours. On y est encore ensemble, on avait encore du fun ensemble, là, c'est sûr.
OK, c'est cool. Et toi, c'est quoi ton objectif, si on veut, à part atteindre la Ligue nationale, là, mais d'où tu te vois dans 5 ans, mettons, le Alex Barré-Boulay, en fait, comment tu te vois dans 5 ans? Au-delà de juste atteindre la Ligue nationale, c'est quoi tes objectifs directement?
Ben, c'est sûr que l'idéal, ce serait d'être établi dans la Ligue nationale puis d'avoir un contrat, un bon contrat qui me sécurise un peu ce que je vais être de plusieurs saisons. C'est sûr que c'est dur à prédire où ce que je vais être dans 5 ans. C'est sûr que l'idéal serait d'être avec la Lightning pour plusieurs saisons puis d'espérer finir ma carrière là.
Exactement. Puis écoute, c'est vraiment, je te le souhaite sincèrement, Alex, parce que on sent que c'est comme toi, le prochain Québécois à aller dans la Ligue nationale, puis à ça faire parler de lui pour les bonnes raisons. Là, puis je te le souhaite parce que tu as vraiment énormément de talent, des bonnes mains, puis t'es pas de la galère à chaque fois que tu mets les pieds sur la glace. Fait que je te le souhaite sincèrement. Écoute, en terminant. Merci. On a parlé un peu de tout ton parcours, de tout ça. C'est quoi, je pourrais dire, que tu as appris le plus avec les années, avec tout le parcours que tu as vécu? Parce que le but du podcast, c'est de recevoir des parcours inspirants. Puis c'est pour ça que je voulais te recevoir. Je pense que tu inspires les jeunes, comme on disait tantôt, parce que tu as passé avec un gabarit un peu moins facile. Tu as eu un parcours plus difficile, mais tu as réussi à te faire un chemin jusqu'à la Ligue nationale de hockey. C'est quoi, je pourrais dire, que tu as appris le plus à travers tout ce parcours-là?
Juste contrôler qu'est-ce que tu peux contrôler. Tu sais, le draft, les échanges, tout ce qui arrive, tu contrôles pas ça. Donc, contrôle ta game, contrôle comment tu t'entraînes l'été, contrôle comment tu agis en tant que personne. Puis c'est mieux que tu vas avancer. Je pense que si tu travailles fort et tu es positif, d'habitude, les bonnes choses arrivent. Puis il ne faut pas que tu te laisses abattre par les petits obstacles qu'il y en a avant toi.
Écoute, c'est excellent comme conseil. Puis on va-tu te revoir, aller voir une game de Armada prochainement? Si tu es de passage à Montréal, ça se pourrait-tu que tu sois dans une loge?
Ben écoute, si je retourne à Syracuse pour voir Laval l'année prochaine, que ça donne, c'est pas mal sûr que je devrais être là, mais aller voir Mario.
Ah ben, je pense qu'il va t'organiser ça, une belle petite loge avec ta famille. Écoute, on salue les partisans de l'Armada qui sont à l'écoute pour ce podcast. Je suis content de pouvoir vous avoir fait découvrir Alex d'une autre façon. Et puis, il me manquait une question. Excuse-moi, j'ai oublié de t'a poser vite, vite. c'est quoi tes passe-temps, en fait, dans la vie de tous les jours? C'est quoi tu fais d'autre que le hockey dans la vie? C'est qui Alex Boriboul?
ben écoute, c'est sûr que l'été, je joue un peu au golf. Sinon, tu sais, j'ai deux chiens. Fait que on va les promener avec ma blonde, je vais les promener. On habite ensemble en appart. Donc j'ai mes deux chiens. On a tout le temps la petite routine d'aller les faire courir, ben les faire sauter dans le fleuve. Ils aiment ça nager, donc on les apporte sur le bord du fleuve, puis ils se baignent. Après ça, sinon c'est sûr que je joue Xbox comme tout le monde, ben tu sais, faire n'importe quel autre sport, pour moi, je vais être heureux.
Exact, c'est super le fun. Puis est-ce que ta copine a réussi à te suivre avec toi à Syracuse? Ça doit être difficile sinon d'être éloigné ou?
Oui, bien tu sais, la première année était encore à l'université, donc on n'a pas été ensemble, mais l'année passée, on a été ensemble toute l'année avec les deux chiens, donc on commence à avoir une petite famille.
Ah ben écoute, c'est le fun, on t'a souhaite. Ben écoute, merci beaucoup. C'est vraiment ça qui me manquait pour que les gens puissent savoir un peu mieux qui tu es dans la vie tous les jours, puis ton parcours en général. Donc, comme je disais, merci beaucoup d'avoir été là en grand nombre. On salue les fans de l'Armada, Mario, Nick, qu'on a parlé aussi dans le podcast. Puis on souhaite le meilleur, on te souhaite sincèrement le meilleur, Alex, dans la prochaine saison. On sent que ça s'en vient, la Ligue nationale, puis il va y avoir un petit trou qui va se faire avec la Lightning, j'en suis certain au prochain camp.
J'espère.
Yes, sir. Merci d'avoir été là pour le 11e épisode du Made in Québec podcast en compagnie de Alex Barry-Boulay du Lightning de Tampa Bay.